Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Jinune Podcast, le média consacré à l'entrepreneuriat féminin, produit par Jinune Woman. Partons ensemble à la rencontre de ces femmes qui ont osé se lancer et qui nous livrent ici leur parcours et leurs apprentissages. Au programme, une bonne dose d'inspiration et de motivation, mais aussi des conseils pour vous accompagner dans cette fascinante aventure qu'est l'entrepreneuriat. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Dina, la cofondatrice de Cupins. Bonjour Dina.
Hello.
Ravie d'être accueillie en tes locaux à Genève. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter puis nous raconter un petit peu ce que tu faisais jusqu'à la création de Cupins?
Oui, bien sûr. Alors, moi j'ai fait mes études à Lausanne, à l'EPFL, en chimie, en ingénieur chimiste. Et puis par contre, quand j'ai fini, je suis assez vite passée dans le marketing, donc déjà un premier virage. Et puis j'ai fait 7 ans dans le marketing, dans différentes entreprises horlogères. Le dernier poste que j'ai occupé, c'est pour le groupe Richemont en tant que responsable marketing. Et puis après est venu mon premier enfant, et puis c'est un peu là où il y a eu un deuxième virage. Et puis c'est vraiment à ce moment-là que le projet du Cupins est né. C'est vraiment lié à cette étape-là.
Mmh. Super. Et concrètement, qu'est-ce que Cupins, vu que je ne l'ai pas expliqué en introduction?
Oui,
que tu peux nous présenter?
Alors Cupins, c'est vraiment c'est un concept store assez unique. C'est ce qu'on voulait à la base, que ce soit un peu un regroupement de différentes facettes de la femme. Mmh. Donc on a un univers shopping qui a toujours fait partie de l'aventure Cupins, soit pour les femmes, soit pour les bébés, parce que on était aussi dans une phase où on avait nos bébés, donc bien sûr on regardait aussi beaucoup les marques liées à l'enfance. Et puis bien sûr il y a toute la partie pâtisserie. C'est vrai que pour nous c'était essentiel de faire un peu une nouvelle ère de tea room, parce qu'au moment où on a eu nos enfants, on avait plus de temps, on s'est retrouvé à aller dans des tea rooms, mais qui étaient vraiment un peu has-been quand même. Et puis c'est là où on s'est dit, ah mais si on avait quelque chose, un peu une nouvelle ère de tea room, et puis avec des pâtisseries maison, et puis avec des marques qui sont dans la tendance. Puis c'est un peu à cette étape-là aussi, il y a eu un peu le lancement de toutes ces plateformes Etsy, Pinterest, où en fait tu découvrais plein de nouvelles marques qu'il n'y avait pas du tout en Suisse. Et donc c'était vraiment ça l'idée, c'était de présenter quelque chose de différent. Un endroit où les gens puissent venir, prendre quelque chose à l'emporter ou s'asseoir et en même temps faire leur shopping ou rencontrer des amis. C'était vraiment un lieu de rencontre aussi.
D'accord. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait peut-être plus le PMU des tea rooms, tu vois.
Enfin, oui, c'était ça. Après, c'est vrai que maintenant, ça fait 3-4 ans qu'il y a des coffee shops et le trend a changé. Mais quand on a ouvert il y a 9 ans, il n'y avait pas.
C'était plus... Plus old school.
Oui.
Du coup, comment est-ce que vous avez eu l'idée concrètement? Est-ce que vous êtes inspiré de quelque chose? Ou voilà, comme tu disais, vous aviez...
Oui, alors c'est vrai que moi, dans mon job d'avant, je voyageais toutes les semaines dans toutes les capitales européennes. Donc ça a aussi fait que j'ai vu un peu ces tendances-là en Angleterre ou aux États-Unis, d'endroits un peu différents et beaucoup plus mom-friendly ou des choses qu'il n'y avait pas du tout ici. Et puis du coup, ça a été inspirant, ouais, c'est sûr.
Et quand vous avez commencé, donc parce que avec ta cousine, je crois,
oui,
effectivement, est-ce que vous étiez en mode guerrière du business plan avec des prévisions formelles? Enfin, vous avez fait un budget prévisionnel. Est-ce que c'était très carré votre approche ou bien vous
quand
avez
même,
l'idée?
Quand même, parce que c'est vrai que voilà, moi, je sortais d'être responsable marketing pour une grande boîte horlogère. Donc, les plans à 3 ans, c'était, c'était ce que je faisais en
ADN
tous les jours. Donc, c'est sûr que je ne me suis pas... Voilà, c'était quand même très cadré. Parce que c'était comme ça que j'avais toujours managé quelque chose. Donc c'est sûr que oui, ça a quand même été très cadré. Tout de suite, on savait qu'on voulait un site, il y avait les réseaux, il y avait faire des dossiers de presse. Enfin voilà, c'était quand même cadré.
Tu avais quand même une approche structurée.
Oui.
Et ta cousine, elle apportait quel type de...
Alors ma cousine, elle a fait aussi le PFL, aussi ingénieur chimiste. Mais par contre, elle est partie tout de suite dans la qualité. Donc elle a vraiment apporté la partie rigueur, la partie qualité sur tout ce qui est pâtisserie, c'est vraiment sa force. Moi, ça fait 7 ans, je pense que je n'ai pas trop touché de pâtisserie. Par contre, elle, c'est vraiment la boss de la pâtisserie.
Ouais, okay. Et justement, vous êtes formée pour apprendre à faire des cupcakes?
Alors, on est parti à New York pendant un petit moment, okay, pour se faire former sur pour les cupcakes. Après, par contre, sur tout ce qui est cake design, parce que maintenant, c'est vrai que ça prend une très grosse ampleur, tout ce qui est gâteau. Là, c'est vraiment Yasmine qui a pris quelques cours aussi à Londres. Et puis, ben, après, ça a été apprendre sur le terrain.
J'imagine. Ouais, ouais. Effectivement. Parce qu'il y a eu combien de temps entre le jour où vous avez eu l'idée, on va dire, puis que vous avez commencé à brainstormer, puis l'ouverture du premier store à Lausanne ?
Assez vite, en fait. Hein. C'était 7 mois. En fait, moi, j'étais partie, pour la petite histoire, j'avais postulé sur une entreprise de cosmétiques. Et puis, ben en fait, on avait vu en même temps un petit local. Et puis, j'avais dit, ben écoute, si on a le local, go pour Cupins. Et puis, sinon, ben, je prendrai l'autre poste.
Okay.
Et puis, on a eu le local et puis c'est parti.
Le signe du destin.
Ouais. Okay.
Je voulais te demander si vous êtes fait accompagner ou pas du tout.
Pas
ou vraiment,
du tout.
Vous étiez juste les deux.
Ouais.
Et puis,
à cette époque-là, maintenant, on parle d'époque parce que ça fait quand même 9 ans. Il n'y avait pas beaucoup hein, dans de nouveaux... C'était pas la vibe encore hein, des nouveaux entrepreneurs, maman qui lance, c'est mieux après. Donc on a été un peu des dinosaures un peu dans ça, on s'est lancé un peu comme ça. Au début, sincèrement, les gens nous ont dit « Ah, mais des cupcakes, mais c'est de la mode, dans 2 ans, jamais vous pourrez payer des loyers avec ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez fait des hautes études, vous avez des gros postes, mais pourquoi vous voulez servir des cafés ?» Non, mais c'était... Voilà.
Et du coup, tu répondais quoi?
Je dis « On verra.
» Mais toi, au fond de toi, t'avais comme confiance que bah, ça allait marcher un moment,
oui.
Ou alors ça marchait pas, au moins c'était une expérience?
Honnêtement, je savais pas. Ce que je savais, c'est qu'on n'avait pas tout misé sur un produit. Le but, ça n'a jamais été d'être juste un petit shop de cupcakes, parce que ça, je savais bien que par rapport au business plan, il y avait pas beaucoup de risques que ça puisse tourner sur 2 salaires, 2 mamans. Mmh. Non. Mais après, c'est vrai qu'on avait une vision en tête depuis le départ. Donc voilà, si on arrivait à reproduire cette vision-là, dans la théorie, ça devait marcher.
Est-ce qu'au début, vous étiez assez ambitieuse justement sur les budgets prévisionnels et enfin, tous vos forecasts?
Non.
Ou bien...
Non, on a toujours été très très pessimiste.
D'accord.
Et puis dans tout ce qu'on a acheté au début, on a vraiment mis un minimum de moyens et puis on a fait presque tout nous-mêmes. Donc c'est vrai que moi j'avais un peu quelques notions de site internet, mais pas tant que ça, mais on n'avait pas le budget de payer. Voilà,
ouais.
on l'a fait nous-mêmes et puis on a grandi comme ça, en fait tout en apprenant un peu nous-mêmes. La compta, c'est pareil, ma cousine ne savait pas forcément faire la compta, mais jusqu'à maintenant, en fait, elle fait toute la compta. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a internalisées, on n'a pas trop externalisées pour retenir les budgets.
Parce qu'en termes de financement, justement, au début, c'était que vos économies?
C'était que nos économies.
Non, pas du tout d'emprunt.
On a mis chacune 10 000 francs. Pas grand-chose. Et c'est parti de là, ouais.
Ok. Et comment est-ce que vous vous êtes fait connaître au début?
C'est sûr qu'on avait le site assez vite, quand même un site vitrine, hein, pas tout de suite en online, e-commerce. Après, on a fait un dossier de presse, on a contacté des journalistes. Mmh. Il commençait à y avoir quelques petits influenceurs, mais c'était encore tout récent. On a fait quelques petits événements aussi avec la clientèle. Vous voyez, 2-3 petites idées comme ça, des partenariats avec des gens locaux qui venaient en fait par hasard, puis qu'après avaient envie de nous soutenir parce à qui on pouvait raconter notre histoire. Donc voilà, c'est vraiment parti beaucoup de bouche à oreille, un petit peu de réseau, mais pas non plus beaucoup.
Des choses assez organiques, vous n'avez pas tellement payé pour
Non, on n'a jamais encore, jusqu'à maintenant, on n'a pas payé une seule pub.
Plutôt génial.
Ouais, non, c'était un principe. C'est vrai que, ouais, pour moi, si on a un concept qui marche, il doit être autoporteur et on n'a pas besoin de ça.
Et tu dirais que ça vaut la peine, enfin, c'était en guillemets rentable de lancer un dossier de presse, enfin, comme une bouteille à la mer aux journalistes, t'as eu des retours plutôt...
Carrément, ouais. Okay. Carrément, on a eu toujours beaucoup d'échos. On a eu des parutions dans tous les journaux sans développer...
Oui, juste le dossier de presse. Quoi.
Sans vraiment faire un gros développement ou un gros budget.
Et tu as rejoint Genuine Woman quand, du coup?
Alors, j'ai rejoint Genuine quand on a... Après 2 ans d'ouverture à Genève, donc en 2017, je pense. Assez au début. Pas forcément pour être supportée, mais plutôt pour supporter les personnes qui avaient besoin.
Qui avaient besoin, très bien. Okay. Parce que quand l'ouverture à Lausanne et l'ouverture à Genève, c'est passé combien de temps?
Donc on a ouvert 2012 à Lausanne et fin 2014 à Genève.
Ah oui, donc ça se fait quand même hyper rapidement. Donc la volonté d'ouvrir cette boutique à Genève, c'était parce qu'il y avait une demande du marché ou bien c'est parce que
c'était plutôt une demande financière, parce que c'est vrai qu'on était deux, on avait plus de personnel, donc on avait un besoin d'accroître le chiffre d'affaires. Lausanne, on ne sentait pas ouvrir une deuxième boutique. Et puis, on a senti Genève, on a eu une opportunité, donc on l'a fait. Ouais.
Et parce que quand tu le dis comme ça, ça sonne presque pas contre-intuitif, mais de se dire, ok, on a besoin de plus d'argent, donc on va en investir ailleurs pour potentiellement augmenter le chiffre d'affaires.
Ouais.
Comment tu commenterais là-dessus?
Il y a un moment donné, il y a... C'est vrai que voilà, au début, à Lausanne, on était surtout les deux, donc ça allait. Mmh. Mais c'est vrai que plus on a de personnel et plus on a de demandes, il y a toujours un peu des paliers hein, de rentabilité, donc par rapport staff versus chiffre d'affaires. Donc quand on commence à devoir prendre plus de personnel, il faut mettre en relation le chiffre d'affaires. Et c'est sûr que voilà, il y a eu comme ça un peu des vagues.
Mmh. Justement, pour parler un petit peu du développement et de la croissance, vous êtes passé voilà, d'un stade où vous étiez que les deux à un moment où vous avez dit en fait il faut engager parce que c'est pas possible d'être que deux.
Ouais.
Ça a été quoi d'après toi un peu les grands moments charnières de votre développement? Tu parlais de seuil de rentabilité, mais peut-être un peu les grandes étapes clés.
Il y a eu beaucoup de moments, il y a eu beaucoup de vagues quand même. Il y a eu la première boutique où on était que deux, puis en fait on s'est fait prendre quand même assez vite de court, hein, où il y a eu. Il y avait des pâtes, il y avait des cupcakes vraiment partout, puis on était que les deux, puis voilà, ça faisait des énormes journées, ce qui n'était pas le plan de base. Donc là, on a vite engagé un premier pâtissier. Et puis après, on a commencé à engager juste une étudiante pour nous aider sur les fermetures de la boutique. Et puis après, ben c'est vrai que nous aussi, on a voulu développer le site. Et puis être un peu plus sur des partenariats ou plus sur des partenaires commerciaux. Donc il fallait se libérer du temps, donc là il a fallu engager, mais c'est dès qu'on fait en fait des paris sur le futur, on est obligé un peu de d'assurer ses arrières. Donc c'est vrai que dès qu'on rajoute un peu comme ça une personne de plus sans garantie qu'elle chiffre d'affaires, ça recrée en fait une chute dans son chiffre d'affaires, et donc du coup il faut pouvoir lier ça à une potentielle croissance assez rapide. Donc c'est là où aussi on a réalisé ce besoin d'ouvrir une deuxième boutique, vu qu'on était deux. Donc on avait besoin de deux salaires quand même fixes. Donc on a ouvert cette boutique à Genève. Après, il faut savoir qu'en fait, au même moment, moi je suis partie à l'étranger. J'ai été vivre à Londres pendant 4 ans, 3 ans et demi.
En plus, tu as ajouté une couche de...
Oui.
De complexité,
c'est un
on va
peu
dire.
Notre spécialité. Et puis Yasmine a été enceinte de son deuxième. Donc en fait, moi je suis revenue de Londres pendant un mois pour faire l'ouverture de la boutique.
Wow. Okay.
Elle a accouché le jour d'avant l'ouverture de la boutique de Genève. Donc là, ça a été un vrai... c'était un peu inconscient parce qu'on a un peu minimisé quand même l'effort qu'il fallait pour faire qu'une boutique marche. C'est vrai que là, ça a été une phase très très difficile. On n'était pas loin quand même de la faillite, je pense, moment-là.
Ouais, et du burn-out puis...
Oui, parce que moi, j'étais aussi enceinte. En fait, j'ai enchaîné mon deuxième après Yasmine. Du coup, non, il y a eu un moment donné, c'était vraiment un peu la cata. On a fait aussi un mauvais recrutement à Genève, on a mal démarré. Mais aussi parce qu'en fait, j'étais pas là, donc en fait, on pouvait pas vraiment voir.
Les choses,
voilà, ouais. Yasmine était en congé mat, donc c'était très très compliqué. Non, moi, il y a eu tout un été, le petit avait un mois. Et du coup, j'ai dû revenir ici, puis je tenais moi la boutique de Lausanne avec le bébé à côté. Non, c'était en plein congé mat, donc non, il y a eu des bonnes phases.
Et comment vous êtes retombée sur vos pieds au bout d'un moment?
Je pense que c'est vrai que moi, dans mon job d'avant, on avait quand même vécu une crise horlogère. Et puis, on avait quand même... Moi, j'ai eu la chance de vivre ça. Et puis de vivre comment tu peux remodeler, en fait, ton modèle d'entreprise ou ton business plan. Donc après, c'est vrai qu'on s'est reposé des questions sur absolument tout. On a tout remis en cause, que ce soit les heures de la boutique, les produits qu'on y vend, les marges, le staff, tout. Et puis en fait, on a été un peu chercher les optimisations sur absolument tous les niveaux. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis c'est vrai que là, on a un peu repensé le modèle. Et puis ça a marché.
Il y a des choses que vous avez abandonnées, je sais pas, des idées par exemple, ou que vous avez mises de côté? Tu parlais d'optimisation, ça concernait l'offre ou bien
ça concernait l'offre ou en tout cas la manière dont on proposait l'offre. Tout, par exemple, ça peut aller dans notre petite chose. À la base, on proposait aux personnes de composer leur boîte de cupcakes, donc ils pouvaient vraiment choisir tous les arômes, même sur le site en ligne. Mmh. Mais en fait, plus tu as de commandes, plus ça prend énormément de temps, en fait, que chacun a trois vanilles, deux velvettes, un chocolat. Donc là, après, on a commencé à faire des boîtes un peu standards, 3-4, mais en fait, on a commencé un peu à standardiser. Pour gagner du temps, pour gagner du coût. Ouais, c'est une idée, mais il y a eu beaucoup d'idées comme ça. On s'est dit, il faut absolument qu'on standardise même les flux de communication à l'interne de l'entreprise pour que moi, je passe moins de temps derrière mon téléphone à Londres pour briefer le personnel, mais que ça soit un peu plus autogéré. Voilà, donc on avait beaucoup de procédures, beaucoup de flux, beaucoup de, voilà, de standards. Mm.
Vous êtes professionnalisé d'une certaine façon.
Ouais. Ouais. Et puis, du coup, après, on a revu aussi un petit peu, je dirais, si tu veux, la base de qu'est-ce que c'est que Pins. Je dirais que maintenant, je rigole parce qu'en fait, je vois que même le staff, qui maintenant est là depuis un bon moment, c'est vrai qu'on a une très, très bonne équipe, que Pins, c'est devenu un adjectif. À l'interne. Et puis, voilà,
j'ai envie de dire mission accomplished, parce que quand ça rentre dans le vocabulaire commun, c'est ça. Vraiment dans le cas.
Et puis, du coup, même maintenant, voilà, même maintenant, je rigole parce que même le team va dire: ah non, mais ça, c'est pas que Pins, ça, c'est que Pins. Puis en fait, je dis: ah bah, c'est trop bien parce qu'en fait, tout le monde a bien compris. Voilà. Et ça se retrouve un peu dans tout. Donc, c'est dans le choix des produits, dans le design des gâteaux, de même l'attitude. Là, on sort d'un recrutement et puis c'est vrai qu'une des managers a dit: non, mais elle n'est pas assez que Pins.
C'est génial.
Okay, c'est génial. Donc, mais c'est, voilà, c'est venu en fait toute une culture aussi d'entreprise et puis avoir vraiment posé les jalons pour qu'en fait, ça devienne tout beaucoup plus clair en fait. Et c'est vrai qu'avant, je pense qu'on était plus à se dire toujours on teste un peu tout. Mais en fait, ces tests, des fois, ça consomme énormément de temps. Puis c'est du temps que tu ne mets pas sur des autres choses. Où c'est de l'effort du personnel à tester. Donc maintenant, c'est vrai qu'on ose beaucoup plus être drastique dans les choix qu'on fait, en se disant toujours: est-ce que c'est nous, c'est pas nous, et si c'est pas nous, on n'y va pas. Donc ouais, ça aide aussi quelque part.
Et par rapport à la réponse de la clientèle, parce que tu disais vous avez arrêté peut-être de personnaliser et puis d'un coup c'est devenu peut-être plus standardisé, vous avez des retours sur ça?
Oui, après c'est vrai qu'on l'explique et puis ça passe en fait. C'est bon quand on explique à la clientèle le pourquoi du comment, au final
transparent, et
ça marche.
Tu disais tout à l'heure qu'il y a un moment où il fallait se verser des salaires, c'est certain. À partir de quel moment vous avez pu être rentable et, enfin, en tout cas, vous verser un salaire et pas avoir le couteau sous la gorge?
Ouais. Alors, on a tout de suite pu verser un salaire. Parce qu'au départ, on n'était que les deux. Donc là, c'était facile. Après, c'est pour ça que je disais qu'il y a eu des vagues. Parce qu'après, c'est sûr, quand on a ouvert Genève, là, pour l'ouverture, on a sacrifié nos salaires. Puis bon, en plus, moi, je vivais à Londres, donc... Voilà. Mais je pense qu'au total, sur 9 ans, il n'y a eu qu'une année, une année et demie, où on ne s'est pas versé de salaire.
D'accord. Et ça se gère en termes de... Je veux dire, personnellement, t'arrivais à te projeter en disant, bon, un an et quelques...
Oui, je pense que si t'as des projets et puis que t'as un business plan et tu sais... voilà. C'est vrai que nous, on a toujours été quand même assez détachés. Moi, j'ai toujours dit, écoute, voilà, on fixe nos objectifs et si on n'y arrive pas, tant pis, on arrêtera. Parce que si tu peux pas être rentable, ça sert à rien.
Ça sert à rien. Et à ce moment-là, il n'y a eu aucun moment où en fait, vous avez dit: ah, faut qu'on ait un financement extérieur. Ça vous a jamais traversé l'esprit?
Si, on a eu des propositions même. Mais c'est vrai qu'à ce stade-là, on avait envie d'être totalement indépendante.
Ah voilà, flexibilité du choix.
Oui. Et puis on avait, voilà, comme je dis, c'était qu'un an et demi et on savait que c'était dû à l'ouverture de Genève. Et que si Genève atteignait les objectifs sur l'année, c'était bon. Et ça a été bon. Donc, voilà.
Tant mieux.
Ouais.
Et tu dirais que le plus gros risque peut-être que vous avez pris, est-ce que c'était cette ouverture à Genève?
Oui.
Ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui étaient un peu risky? Puis on te dit, allez, on tente.
Non, ça c'était le plus... voilà. Ouvrir une boutique quand toi, t'es pas là, que l'autre, elle est en congé mat, c'était un peu... Ouais, c'était un petit peu risque. On aurait peut-être pu décaler de quelques mois, ça aurait été un peu plus sécure.
Ça aurait été plus sécure. Je vais parler un petit peu de recrutement avec toi, vu qu'on a parlé un peu des étapes. Voilà, ça fait partie de votre évolution, comme tu le disais. Et comment est-ce qu'on fait pour recruter le bon employé? Alors, c'est complètement utopique, je pense. Mais est-ce que toi, tu as des conseils? Tu disais que tu as fait un mauvais recrutement?
Oui, alors je pense qu'au début, voilà, quand tu es une entreprise jeune, toi-même, en fait, déjà, tu n'as pas forcément eu l'occasion d'avoir beaucoup de recrutement. C'est vrai que je pense que quand même fatalement c'est quand même une expérience qui qui se crée au nombre de recrutements que tu fais. Mais au début, j'étais souvent dans une optique de donner une chance à quelqu'un qui n'avait pas forcément de l'expérience. Mmh. Et puis plus dans une dynamique de former quelqu'un, voilà, même si elle n'avait jamais travaillé dans, dans une boutique avant. Je pense que ça, c'est, voilà, c'était un peu utopique, un peu trop risqué, parce que quelque part, quand on est si jeune, et puis qu'on fait en fait le pari de recruter tout simplement quelqu'un, et puis de descendre en fait son propre salaire, parce qu'on est justement dans ces gaps, il faut plutôt prendre quelqu'un qui a une expérience, parce qu'au final, c'est trop de temps, sinon, de ta personne, en plus de, voilà, en plus du stress financier pour pouvoir la former. Donc c'est vrai que maintenant, on est... ouais, déjà, on demande plus d'expérience. Et puis on a moins, voilà, moins ce côté de, bon, ben voilà, il est jeune, il n'a pas d'expérience, mais formons-le à l'interne. On n'a pas encore, je pense, le luxe d'avoir assez de personnes pour pouvoir se dire qu'on peut faire ça.
D'accord, ok. Et comment est-ce que tu recrutes quelqu'un dans un domaine qui n'est pas le tien, en fait? Comment est-ce que tu assesses les qualités, les compétences? Tu vois, si tu recrutes un chef pâtissier,
ouais.
maintenant j'imagine l'expérience, mais je veux dire, ton premier chef pâtissier, comment est-ce que tu l'évalues, en fait, pour savoir que c'est...
Oui, ouais. Je pense que, enfin, nous, fatalement, on a fait des mauvais recrutements. Soit on a été trop sensible et on n'a pas été assez, assez déterminé sur qu'est-ce qu'on cherchait vraiment, parce que justement, on se définissait. C'est, pour moi, c'est de l'expérience.
Ouais, c'est au fur et à mesure.
Oui.
Les premiers sont mauvais.
Je pense quand même que fatalement, ouais, c'est un peu ça.
Ouais. Toi, tu avais déjà de l'expérience en tant que leader d'équipe dans tes
projets
précédents.
Oui, mais après, c'était des totalement autres profils.
Ouais,
c'était des personnes qui étaient universitaires, qui avaient déjà fait des stages, qui étaient dans le marketing.
Ouais.
C'était pas...
Tu parles la même langue, déjà.
C'est pas pareil. Ouais. Non, c'est pas pareil. Ouais. Et puis, il y a une relation au travail qui est très différente. C'est vrai que les personnels qu'on a maintenant est peut-être moins orienté sur une carrière. Et c'est vrai que moi, j'avais tendance à les prendre un peu comme ça. Et pas du tout.
Pousser vers...
à vouloir les faire évoluer. C'est juste dans une certaine mesure, mais pas tout de suite. C'est vrai qu'il
ça
faut...
Ça prend un petit peu de temps.
Oui, ça prend plus de temps.
Est-ce que c'était dur pour toi au début de déléguer, en fait, de faire confiance? Parce qu'au final, c'est votre bébé à deux. Puis d'un coup, tu le mets dans les mains de quelqu'un d'autre. Surtout quand tu étais à Londres, je pense.
Oui. Mais pas forcément, parce qu'en fait, je savais que, ben voilà, moi, j'étais pas là et je devais pouvoir déléguer.
Pas le choix.
Alors, c'est vrai que alors ça, par contre, c'est un point dans le recrutement où on dit très, très vite, en fait, c'est votre projet aussi, c'est votre boutique, c'est votre entreprise.
Ouais, c'est pas juste un job.
C'est pas juste un job. Et alors ça, maintenant, on le définit très, très tôt au stade des recrutements, parce que si on sent pas qu'en fait, la personne a ça, ça va pas aller.
Ouais.
Non.
Ouais. Et... recrutement en général, tu dirais, est-ce qu'il y a un enseignement que tu as tiré assez vite?
Ben, je pense qu'il faut vraiment, ça rejoint un peu ce que je disais à être copines, nous on a vraiment défini nos valeurs et il y a comme ça, voilà, même un style de, je pense, de caractère ou de, ouais, de relation au travail qui est propre chez nous et qui se retrouve chez tout le monde qui est recruté. Donc c'est vrai que maintenant c'est très clair et puis on le voit tout de suite et puis ben, si cette personne n'a pas ça, ça matchera pas. Donc c'est aussi de définir en fait bien peut-être sa propre personnalité à soi et à l'équipe. Et c'est un capital en fait de prendre quelqu'un qui match dans l'équipe.
Est-ce que tu dirais que c'est l'une des clés du succès? J'imagine qu'il y en a d'autres. Je ne sais pas si tu veux les partager ici.
Oui, alors par rapport au succès, je pense que l'équipe, réussir à faire une équipe qui est stable et qui va... Tout le monde va dans la même direction, c'est une clé. Après, il y a d'autres clés. Je pense qu'il faut aussi savoir justement poser ses jalons, oser poser en fait son... Ouais, sa marque et puis c'est son identité. Parce que si, voilà, pas forcément partir dans toutes les directions. C'est vrai qu'en discutant comme ça avec pas mal d'entrepreneurs, j'ai souvent quand même remarqué que c'était un trait de caractère où en fait quand ça va mal, on se démultiplie, on va un peu dans tous les sens pour essayer, voilà, on se dit bah, si je vends pas ça, ouais, je vends autre chose. Et c'est vrai que moi je pense pas, je pense qu'il faut absolument retrouver en fait un modèle de rentabilité au sein de son propre concept. Et si ça marche pas, si on a vraiment utilisé toutes les facettes pour pouvoir essayer d'être rentable et qu'on n'est toujours pas, c'est peut-être qu'en fait le projet lui-même ne va pas. Plutôt que se partir dans toutes les directions.
Il faut peut-être se remettre en question.
Oui,
effectivement,
avant de...
Une petite introspection.
Ouais.
Et parlant d'introspection, je pense que ça a été l'occasion, la crise du Covid-19. Je voulais te demander comment vous étiez adaptée et est-ce que vous avez changé des choses justement suite à cette période ?
Oui, alors pour nous, ça a été plutôt un... C'est vrai que là, on était depuis un moment dans un espèce de... un rythme croisière quand même, ce qui était super, hein, parce que voilà, même moi personnellement, j'ai eu plusieurs phases. T'as des phases où t'es hyper motivé, y a des phases où t'es fatigué et t'as plus trop envie, et t'as envie de faire un petit, un petit step back, puis rester plus avec tes enfants. Donc ça, forcément, ça influence aussi les projets. Et là, on était un peu dans une phase de, d'acquisition et puis de, je dirais, d'optimisation. On optimisait quelques petits process de gauche à droite, mais c'était quand même très très stable. Et puis, il fallait trouver un peu l'énergie pour se relancer, mais en même temps, c'est signe de recréer une vague de perturbation.
Ouais, effectivement.
Donc, on hésitait parce qu'on avait quand même mis longtemps à trouver son petit rythme. Et puis, le Covid, nous a forcé à lancer en fait les projets qu'on avait en soupape. Donc, c'est vrai qu'on est parti sur des points de pick-up. Maintenant, on a des partenaires. On retrouve nos produits un petit peu partout. Puis, ça va être un peu là. Il va y avoir pas mal de nouveaux pick-up. La livraison aussi à domicile. On a aussi changé beaucoup le site internet pour qu'il soit beaucoup plus dynamique. Donc voilà, ça a lancé un peu des projets. Et puis c'est super parce que sinon, je pense qu'on ne l'aurait pas fait. En tout cas, on aurait moins trouvé l'énergie de le faire.
Il n'y avait jamais la bulle d'air pour en fait respirer puis réfléchir.
Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai besoin quand même d'être un peu... dos au mur. C'est exactement ce qui s'est passé quand j'étais à Londres et que ça allait très très mal à Genève. Je dois être un peu dos au mur pour révéler des nouveaux projets. Donc là-dessus, ça a été peut-être, si on peut le dire, un élan. Mais après, c'est sûr que voilà. Ouais.
Et la reprise post-Covid, ça s'est passé comment ? Est-ce que vous avez rouvert progressivement ?
On a rouvert progressivement. Mais ça va.
Enfin, je dis post-Covid. Post-Covid.
Oui, on sait pas si. On sait pas si c'est fini, mais non, ça va. Ouais. Okay. Ouais.
Et rétrospectivement, sur ces 9 dernières années, est-ce qu'il y a. Enfin, si tu regardes un petit peu le chemin parcouru, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment si c'était à refaire ou pas du tout ?
Oui, je pense que je me poserais moins de questions et j'oserais plus dire non à des projets que je sens pas. Après ça, il faut être en confiance sur son... croire en son projet et puis surtout en ses valeurs et puis pas trop déroger parce qu'au final, c'est un gain de temps, je pense, sur le développement.
Et vu qu'on arrive à la fin, est-ce qu'il y a des projets d'avenir que tu voudrais partager pour Copins ?
Oui, alors c'est vrai que pendant la phase du Covid, ça a été aussi... là, on a en fait des nouveaux associés au sein du Copins. Donc c'est une nouvelle ère qui on sera plus que moi et Yasmine, mais il y a des autres personnes qui ont rejoint qui vont permettre en fait d'autres développements. Donc là, on va ouvrir en fait notre propre centre de production parce que pour l'instant on était un peu en cuisine partagée avec des autres entrepreneurs.
D'accord.
Mais là on va partir sur notre propre lieu à partir du 1er novembre.
Génial.
Donc on a c'est déjà le nouveau centre de prod qui va permettre justement parce que sans ça on pouvait pas forcément accepter plus de commandes parce qu'on arrivait un peu à saturation. Donc il fallait d'abord qu'on bouge ça et puis grâce à ça justement on est en pleine recherche de nouveaux locaux, une deuxième arcade à Genève et puis aussi on est en discussion pour des autres locaux dans des autres villes de Suisse romande.
Yeah, ce serait joli de voir ça dans quelques temps.
Ouais, donc c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir avoir des nouveaux partenaires et puis de pouvoir quand même sortir un bilan Covid positif. Qui permet de te tourner vers l'avenir.
Ouais, ce qui est clairement pas le cas pour tout le monde.
Non, c'est clair.
Et quand vous avez considéré justement ces associations, est-ce qu'il y avait d'autres pistes explorées ? Enfin, est-ce que vous vous êtes dit à un moment, est-ce qu'on reste un peu sur une dynamique plus de croisière, on voit comment ça prend, ou la croissance était la seule option ?
Alors, on aurait très bien pu rester en croisière, mais en fait, c'est vrai que le Covid, c'est vrai que ça m'a poussée un peu à me développer puis à me challenger. Et puis en fait, c'est vrai que je suis à un stade où maintenant, les enfants sont plus grands. Moi, personnellement, j'ai besoin de challenge. Donc en fait, j'avais besoin de ces partenaires-là pour pouvoir en fait maintenant qu'on soit vraiment en fait dans le développement. Parce que Sinon, je m'ennuie un petit peu, quand même.
Statu quo, ça.
Oui, non.
Pour conclure, est-ce qu'il y a un conseil ou un apprentissage que tu souhaiterais partager ici pour celles et ceux qui nous écoutent ?
Je pense qu'il faut vraiment, voilà, se définir soi-même ce qu'on veut et puis ce qu'on veut créer. Et puis, pas hésiter à se remettre beaucoup en question jusqu'à ce qu'on trouve un peu la bonne équation. Pour moi, c'est vraiment une équation, plein de différents facteurs. L'entrepreneuriat, et puis après, il y a des paramètres qui changent parce que soi-même, on change, puis on, voilà, notre vie personnelle évolue. Mais c'est vraiment toujours trouver la bonne équation et puis bien, bien définir ses valeurs et pas partir dans toutes les directions. Parce que c'est vrai que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que la solution, c'est ça. Et c'est vrai que pour moi, c'est d'abord se définir et définir quel est son hit product. Trouver sa forme de rentabilité. Et puis après, on peut s'amuser à se développer sur des petits projets annexes.
Super, merci beaucoup.
T'en prie.
On arrive ainsi à la fin de l'épisode. J'espère que cet entretien vous a plu et que le parcours partagé aujourd'hui aura été source d'inspiration. Vous pouvez retrouver Genuine Woman sur le site genuinewoman.ch ainsi que sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.